sélectionnés. Donc il y a deux personnes qui ont mis leur nom sur cette feuille et qui n'ont pas reçu le texte. Alors, il y a quelqu'un qui a un email, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est déjà là, qui est, le serveur c'est libero.italie. Personne? On va redemander tout à l'heure.
Cynthia.
Oui. Hein?
Comment on dit? Cynthia ou Maria? Ils sont ensemble.
Alors, eh bien, c'est pas Cynthia, c'est Cynthia.
Cynthia.
Oui. Et pourquoi ça marche pas, je sais pas.
Ah, mais je l'ai sur le même.
Bon. Il y en a un autre qui s'appelle, je l'ai pas là. Je ne l'ai pas là, donc je croyais l'avoir. Il était sur cette page. Bon, alors on va commencer. Alors, donc, on va essayer d'avancer un peu dans les calculs. On va essayer d'avancer un peu dans les calculs grâce aux contributions de quelques-uns d'entre vous qui m'ont écrit des petites remarques. Dans lesquels je, grâce à vous, donc je vous remercie bien, parce que grâce à vous, ça m'encourage, ce que certains m'ont écrit, m'encourage tout à fait, même ceux qui me disent, d'ailleurs pour m'encourager, je remercie beaucoup, ils m'encouragent parce qu'ils me disent, on n'y comprend rien à vos calculs, on ne sait pas comment s'y prendre avec, mais on trouve ça passionnant, en soi, et on voudrait y arriver. Donc, pour moi, c'est encourageant. Parce que même si on n'y arrive pas, même si on n'arrive pas à figer comment ça marche, on peut quand même vouloir le faire fonctionner. Donc, ça veut dire que j'ai raison d'insister. Je m'excuse pour ceux qui s'emmerdent complètement. Mais j'ai raison d'insister sur le fait que c'est pas mal d'entrer dans ces calculs, surtout que. Je suis très fier de ces deux logiques. Là, je suis en train de relire des trucs d'histoire, des panoramas, des mathématiques de genre de données, ces choses-là. Il y a un livre qui s'appelle Pour l'honneur de l'esprit humain. Moi, je vois pas pourquoi il parle de l'esprit. Lui, il croit qu'il est comme tous ces gens qui font de la biologie, du cérébral, de la neurologie, je sais pas quoi. Les neurosciences, il croit que. Il y a un livre de Alain Combe, qui est mathématicien et changeur, qui s'appelle Matière à penser aussi, en point seuil. Je suis très surpris, ces gens-là, ils sont tous en train de penser que les mathématiques, c'est une projection de ce qu'il y a dans le cerveau. Bon, alors vous avez un texte qui a initié ces choses-là, qui est vraiment à la fois. Excellent pour montrer la contingence des mathématiques et nul pour montrer l'explication psychologique, la psychologie du savant. Moi, je suis absolument opposé à ça. Il y a des gens qui croient, d'ailleurs, il y a parmi les mathématiciens des gens qui croient que Lacan, en voulant faire des mathématiques, il voulait expliquer, je ne sais pas quoi, expliquer les mathématiciens. On n'analyse pas quelqu'un malgré lui. La psychanalyse, c'est quelque chose du ressort de l'analysant. Il faut. L'analyste, il sert à quelqu'un si on s'adresse à lui. C'est le fait de s'adresser à lui in vivo. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a le transfert. Le transfert ne peut pas se produire en absence et en effigie. Mais c'est celui qui parle à l'analyste qui est dans la position de l'analysant, c'est lui qui fait son analyse. C'est pour ça que Lacan a déplacé les termes. Il parle du patient comme un analysant et pas comme un analysé. Analysé, il le sera plus tard par lui-même, là, s'il arrive à se séparer en deux entre de l'analysé, justement. Je vous invite à regarder pour ça, du discours analytique et l'envers du discours lui-même. Vous voyez, c'est A sur S2 et S barré sur S1. Ça, c'est l'analyser. Et ça, c'est l'analysant. Et ça, c'est l'analyse. Donc, il y a la fonction d'occuper cette place et cette fonction de l'objet à qui on s'adresse. Bon, quand l'analysant il aura fini de parler à son analyste, il sera divisé en deux entre le A et le S barré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura de l'analysé. C'est ce qu'on aimerait bien avoir comme. On aimerait bien avoir des exemples divers. On sait très bien comment ça marche, mais non, c'est pas pour savoir comment ça marche que Lacan a instauré la passe. C'est pour recueillir une clinique psychanalytique. Qui ne sont pas une clinique médicale ou psychologique. Une clinique analytique, une clinique. Moi, tous les exemples cliniques que j'ai, j'en fais pas état parce que je ne veux pas parler des analysants. Ils font leur analyse avec moi. C'est à eux d'en parler, je prends ma passe. Enfin, je suis quand même scandalisé parce que ce que tous les gens nous racontent comme soi-disant cliniques psychanalytiques. Ils veulent nous faire pleurer, de lamentation. C'est vraiment effectivement, c'est un abus de personnes sans défense. Comment ça s'appelle? C'est même un délit qui commence à pointer. Vous savez, abuser des personnes faibles ou faibles d'esprit, si on prend. Dans l'analyse, on n'abuse pas des gens faibles d'esprit, puisque c'est l'analysant qui est responsable de ce qui se passe. Et que si l'analysant est fou, c'est-à-dire s'il est une belle âme, s'il pense que lui, il n'a rien à faire là-dedans, à ce moment-là, il faut mieux décliner l'invitation. Il faut mieux l'inviter à aller faire autre chose. C'est très facile, d'ailleurs. Vous savez, il suffit de demander une somme importante d'argent pour chaque séance, vous voyez, le patient, il se barre vite. Oui, c'est vrai, c'est pas. Donc, ça fait partie des éléments dont dispose l'analyste. Il y a des gens qui. Lacan, il y a des gens qui se plaignent. Moi, je connaissais un Américain qui était venu à Paris, il est tombé en plein milieu de la dissolution de l'école de Lacan. Il vient voir Lacan pour l'emmerder, il voulait l'emmerder. Un hegelien, américain. Alors Lacan lui demande 700, à l'époque c'était 700 francs, là. Il lui demande 700 francs la séance, c'était en 80, 79, 78, 79, plutôt 80. Alors l'autre ensuite il raconte ça, bon, il venait voir Lacan, il voulait voir, et il ne voulait pas demander une analyse à Lacan, il voulait lui demander un analyste, il lui demandait le conseil d'un analyste. Et dès que Lacan lui, c'est lui qui m'a raconté ça, le type, dès que Lacan lui proposait un analyste, il avait des raisons pour le récuser. Il lui dit, Lacan lui disait qu'il allait voir Eric Laurent. Oh non, écoutez, il est un peu jeune. C'est vrai que lui, l'Américain de l'Essai, était vieux, il était âgé. On avait vu. Hein. C'est le type qui a introduit Heidegger aux États-Unis, c'est pas rien. Alors il voulait se faire reconnaître, mais pas. Il ne voulait pas faire l'analyse. Alors Lacan lui a dit, bon, c'est 700 balles. Le mec, il était allé dire, j'ai pas une somme pareille sur moi. Alors il est revenu porter l'argent à Lacan, il lui a donné 700, il lui a donné 695 francs, à l'époque c'était des francs, plus un ticket de métro. Quand même. Tout ça me paraît, faut pas nous faire pleurer. Il faut que chacun prenne en charge sa part. On a tout à fait le droit de rien y comprendre, de ne pas en vouloir. Moi, je trouve qu'il faut mieux. Ceux qui n'y comprennent rien ou qui n'ont pas envie ou qui sont incrédules, il faut mieux qu'ils s'en occupent pas. Il faut dire les choses. Donc, par exemple, en matière de clinique, qu'est-ce qu'on attend de la passe? Écoutez, ce que les autres ne comprennent pas et ce que nous devrions comprendre dans la psychanalyse, c'est que il s'agit de lecture. S'il n'y a rien à lire, une fois qu'il s'appelle ça même à propos de la télépathie, s'il n'y a pas de désir en jeu pour lire, la psychanalyse n'a rien à lire. La télépathie, ça existe, ça n'existe pas peut-être. Si on propose un phénomène parapsychologique. S'il y a un désir qui est impliqué là-dedans, ben il y a moyen. On ne va pas du tout utiliser la psychologie ni la parapsychologie, on ne va pas les étudier, mais on peut dire quelque chose du désir s'il y a quelques sujets qui impliquent son désir dans cette histoire. Tout ce qu'on pourra dire, c'est ça. C'est le désir, c'est le moyen de lire. C'est le fil rouge qui permet de lire les rêves. Bon, et le désir, ça culmine dans la répétition qui nous fait découvrir que c'est la même chose, le désir et l'angoisse, la perception du désir de l'autre. Bon, c'est ce que Lacan, c'est ce que Freud a nommé l'autre côté du principe du plaisir, qu'on a traduit par l'au-delà, toujours la transcendance, l'au-delà du principe du plaisir. Alors, je vous donne un exemple de moi, ce que j'entends par ce qu'on attendrait de la passe, mais on est loin de s'arriver, il me raconte des sornettes. Et puis, tous ceux qui veulent faire des communications pour faire comme le docteur, pour avoir l'air de faire une présentation de malade, il y en a même des psychologues qui font des présentations de malade, parce que Lacan a fait ça toute sa vie. Et Lacan était psychiatre. La présentation de malade, c'est une tradition psychiatrique. Moi, je reconnais à Lacan le. C'est très important de le montrer à tout le monde qu'on ne renie pas ce qu'on a été, ce qu'on a fait. On peut très bien pratiquer la psychanalyse et ne pas renier le fait qu'on est psychiatre. Moi, je ne renie pas le fait que je suis prof de maths. Moi, j'adore travailler avec maths. Et ça, et c'est tout à fait autre chose que la psychanalyse. Alors, bon, je trouve que ici, vous voyez, je m'exerce à vous présenter des petits éléments de mathématiques, mais bien sûr. Ils sont présents. Donc demain et après-demain, on va aller parler de. Moi, je vais parler de psychanalyse et mathématiques à Rouen, dans un colloque, à l'université de Rouen. Et tenez, je vous dis en passant que jeudi soir, vous êtes invités à venir à la lettre lacanienne. Donc jeudi soir, on a une soirée de topologie des surfaces, à l'ITP. À l'ITP, c'est l'Institut de théologie protestante, l'IPT, l'Institut protestant de théologie, je ne sais pas très bien comment.
Commutatif.
Alors c'est boulevard Aragon, c'est l'IPT ou l'ITP, c'est boulevard Aragon, je ne pourrais pas vous dire le numéro.
C'est à côté de la prison.
Ah, c'est juste à côté de la prison de la santé. C'est au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Aragon. Il y a un beau fronton grec triangulaire. Il faut rentrer par la petite porte qui est à côté. Puis là, il faut aller au fond de la cour et monter au premier, au deuxième. Il y a des bâtiments tout modernes qu'ils ont aménagés, qu'ils ont améliorés depuis quelques temps, depuis peu de temps. C'est très beau. Ça, c'est les protestants. Et c'est l'endroit où on fait des réunions de psychanalyse depuis le début des 90. C'est pour ça qu'ils ont pu moderniser leur bâtiment, parce qu'on leur a fait gagner beaucoup d'argent. Grâce à quelques protestants dans la psychanalyse qui ont invité pour que tout le monde y aille.
C'est à l'heure, ça ?
Comment ? C'est à 9h. Surface, théorie des surfaces. Hein. Il y a deux jeudis comme ça par mois, ce sera jeudi, c'est ce jeudi prochain, jeudi suivant. Et quand je ne suis pas là, je suis tout à fait ravi que certains se sont organisés pour faire des réunions sans moi. Et je trouve ça formidable, c'est bon signe.
Bon.
Parce que tout ça ne vaut n'a d'intérêt que si le public se met un peu à gribouiller, à gratter. Alors, je vous donne un exemple d'un cas clinique qui me paraît exemplaire, c'est que je peux vous en parler parce que c'est quelqu'un qui n'est pas un analysant, c'est juste quelqu'un qui est venu me visiter une fois, qui a entendu parler de moi par une amie qui était ma voisine, une voisine dans l'immeuble où j'ai mon cabinet. De consultation. Il y a une dame qui vient me voir un jour, elle me demande un rendez-vous, elle vient de la part de machine, une copine à elle. Et elle me raconte l'histoire suivante, c'est très simple. Elle me dit voilà, oui, bon, moi j'ai fait une analyse, je suis toujours d'ailleurs en analyse, avec une analyse. J'ai une femme analyse, je suis très content de la psychanalyse. De ma psychanalyse, j'ai fait psychanalyse avec cette dame. Grâce à cette psychanalyse, je me suis marié, j'ai fait des enfants. J'ai élevé mes enfants, donc tout ça, tout est merveilleux, ça baigne. Et, maintenant, mon mari gagne suffisamment sa vie, gagne bien. Donc, j'ai travaillé un moment pendant que j'ai élevé les enfants, j'ai travaillé, je faisais des relations publiques. Et puis, maintenant, comme mon mari gagne bien sa vie, j'ai même plus besoin de travailler, donc je m'occupe de ce qui m'intéresse. Et elle me dit, bon, le seul problème, c'est que quand j'ai travaillé, j'ai dû faire des contorsions, des effort énorme pour que personne ne se rende compte que je suis incapable d'écrire une ligne. J'étais dans un bureau de relations publiques. Je ne sais pas quel domaine de quoi elle s'intéressait, mais pas. Et donc elle dit, oui, j'ai utilisé les secrétaires pour écrire à ma place, les gens, les dactylos, et je dictais des trucs, je peux dicter une lettre, mais je suis incapable de l'écrire. Je ne peux pas écrire une ligne. Je dis, c'est bien. Et j'ai travaillé pendant 15 ans, sans problème, grâce à des stratagèmes. Personne ne s'est jamais rendu compte que je suis incapable d'écrire une ligne. Bon, maintenant que je ne suis plus obligé de travailler, ben, entre-temps, j'ai fait mon analyse, je suis très content de tout ça, et puis je me suis mis à lire Beckett, Samuel Beckett. Vous voyez, la salle d'à côté s'appelle Beckett. J'ai commencé à lire Beckett, et puis j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Alors j'ai commencé à aller dans des colloques, à lire des études sur Beckett, aller dans des colloques, à discuter avec les Beckettiens, européens, qu'on voit dans les colloques, même du monde entier, et je connais tous les Beckettiens de Paris, qui me connaissent bien parce qu'on se rencontre dans les colloques, au restaurant, au café, bon. Et puis j'adore Beckett. Alors j'ai amené Beckett à mon analyste. Cette dame, je lui ai apporté Beckett, je lui ai dit, lisez ça, c'est formidable ça. L'analyste, je ne sais pas si elle l'a lu, mais enfin elle dit avoir lu Beckett, elle lui dit non, tout ça c'est pas intéressant. Vous faites un truc sur le père. Vachement original. Vous avez Samuel Beckett, un analyste, il vous dit papa. Vous allez loin, ça va. C'est pas étonnant qu'on se retrouve avec Sarkozy, vous voyez. Bon. Alors, la dame, elle avait fait son boulot, la dame, puisque la cliente était contente. Elle avait une psychanalyse, bon, d'accord, pour se marier, faire des enfants, élever ses enfants. Bosser plus ou moins, bon, mais de toute façon, elle n'avait jamais dans l'analyse touché au point qui l'intéresse le plus, elle ne peut pas écrire. Et elle amène ça à l'analyste en lui disant, mais vous devez connaître ça, c'est formidable, Beckett, si vous n'avez pas lu Beckett, vous ne pouvez rien entraver, ni à Freud, ni à rien. Bon, il ne faut pas, n'oubliez pas quand même que Lacan, dans Lecture à terre, il dit une chose de Beckett qui mérite qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'il veut dire. Quand il dit que Beckett sauve l'honneur de la littérature à notre époque. C'est une formule, ça mériterait d'être expliqué. Pourquoi Beckett sont l'honneur de la littérature? Beckett, c'est pas Joyce. Bon, en fait, Joyce, fait qu'il est connu Joyce, qu'il a écrit ce très beau texte sur Giordano Bruno, Vicente Fox. Beckett, c'est un type extrêmement. Lui, il sort du Trinity College, c'est pas le cas de Joyce. Mais en quoi il sauve l'honneur de la littérature? Écoutez, Beckett, c'est quelqu'un qui a lu Proust. Si vous voulez apprécier Beckett dans son amplitude, vous lisez le Proust de Beckett. Lui, il n'aimait pas. Quand il était lecteur ici d'anglais à l'école normale, c'est comme ça qu'il est venu en France, puis ensuite qu'il s'est installé, qu'il s'est mis à lire et écrire en français. Il a écrit quand il était jeune, lecteur à Paris, à l'école normale. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de ça. Une nouvelle aussi. Donc Beckett, il a écrit un Proust. Lisez son Proust, vous allez voir sortir de Proust toute l'œuvre de Beckett. Les pinces à linge, les poubelles, les saloperies, les déchets, le linge sale, le fil à linge. Vous allez voir comment Beckett a pu lire Proust comme il a lu Proust. C'est formidable. Bon. Donc vous n'avez pas l'idée quand vous voyez les airs déjetés des personnages beckettiens hein, qui sont des... Deleuze a écrit un très joli texte sur Beckett, l'épuisé, il parle de lui comme l'épuisé. C'est vachement bien vu, mais c'est pas seulement l'épuisé, c'est aussi, enfin, sauver l'honneur de la littérature. C'est pas se lamenter, c'est, je sais pas, mais si vous avez qu'une demi-journée à consacrer à Beckett, lisez Un amour, une petite histoire d'amour. Ça fait, vous allez lire ça dans l'après-midi, vous allez voir que c'est tout à fait pour Beckett, il dit qu'il a réussi à piger qu'il pouvait faire ça au moment de la mort de sa mère. Il dit qu'il est allé sur la jetée, il en a fait même une pièce de théâtre qui s'appelle Dernière bande, qui est vachement bien conçue, vachement bien montée, avec une bande magnétique et un magnétophone c'est drôlement bien construit. Et puis ils ont enregistré tout, même la machine, même le mouvement rétro de la bande magnétique, ce qui fait que le acteur, il a fait appuyer toujours dans le même sens. Il a tout le fil du théâtre, de la pièce qui est sur la bande magnétique. Et c'est censé être un type qui réécoute, qui enregistre une bande magnétique tous les ans. Dernière bande. Et hop, il remarche, il fait en marche arrière, il réécoute des trucs. Et là, il raconte cette histoire qu'il est allé sur la jetée de Dublin pendant que sa mère était en train de mourir et qu'il va... C'était la nuit, il y avait la tempête, le vent, l'eau, la mer... Et qu'à ce moment-là, il a compris que s'il acceptait, ses défauts, ses insuffisances, vous voyez, s'il les acceptait, il pouvait faire quelque chose. Pas mal. Parce que c'est un bon élève. C'est pas du tout Joyce, hein, vous ne confondez pas. Joyce, c'est un mécréant. Il veut être théologien. Voilà, la différence, c'est que, comme l'a montré Jacques Aubert, Joyce, il voudrait être thomiste, mais il n'est pas thomiste du tout. Il ne connaît rien du tout. Il a voulu aussi lire le latin, avoir été élevé chez les jésuites. C'est de la rigolade. Tandis que Beckett, lui, c'est un sérieux scolastique. Vous pourrez trouver son texte sur Bruno Vico Joyce dans Bruno virgule Vico 2. Joyce 3. Parce qu'il y a la ponctuation qui compte aussi. Eh bien, ça, vous pouvez le trouver dans le catalogue de Beaubourg, de l'exposition qu'ils ont fait il y a un an ou deux à Beaubourg. Il y a le catalogue de l'exposition Beckett, et là, dans ce catalogue, au début, ils ont mis ce texte. Bon, tout ça, alors qu'est-ce qu'elle me dit, cette dame qui vient me voir avec son Beckett? Elle me dit, écoutez, maintenant, je suis au point où, voilà, j'ai mes amis beckettiens de Paris me disent tous que je ne dois pas rester comme ça, c'est dommage que je sois touriste, il faut que je rentre, que je me décide, il faut que je fasse une thèse sur Beckett. Voilà. Alors ils m'ont dit ça comme ça au café, vous devriez faire une thèse sur Beckett, puisque vous aimez ça. Et puis surtout, elle connaît énormément de choses, elle est érudite en lisant, mais elle ne peut pas écrire. Alors elle me dit, oh, écoutez, je vais me voir parce que mon analyste qui me dit que Beckett c'est mon papa, il n'y a rien à faire, ça ne l'intéresse pas du tout mon histoire, mais moi, le type qui m'a dit ça, et c'est elle me cite le nom du type, c'est un patron de l'université, c'est un professeur, il me dit faites une thèse, c'est très simple. Vous m'écrivez une page, vous me la donnez, et comme ça vous avez déjà un projet de thèse. Elle a tout à fait l'idée de ce qu'il faudrait mettre sur la page, mais il faut qu'elle le fasse écrire par quelqu'un. Elle est dans un état d'angoisse extraordinaire. Et elle me dit, si j'arrive pas à écrire cette page, je me flanque par la fenêtre. Bon, moi je ne prends pas ça pour de la rigolade. Je pense que là, ça devient quand même un peu plus fort. Parce que vous voyez, d'être obligé de planquer toute sa vie, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire, et leur trouver de ça, leur donner de l'importance. Voilà, en matière de lecture, en matière d'écriture, en matière de parole, alors je peux vous en raconter des tartines, hein, c'est de la clinique analytique. Donc c'est exactement ce que dit Freud, s'il n'y a pas un désir, et le désir c'est le trait distinctif, c'est le motif, c'est le moyen de rendre lisible le texte. Alors qu'est-ce que c'est que le désir en question? Le désir c'est la division. C'est le fait qu'il y a deux textes. Vous voyez, le désir, ça se trouve à partir du moment où vous avez le phonème. C'est la base du phonème. C'est pas les ressemblances qui comptent dans le langage, c'est les différences. Et les différences vont même jusqu'à donner l'identité. Et on ne retrouve rien de mieux que l'histoire des mathématiques. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Dieudonné, pour l'esprit humain, pour l'honneur de l'esprit humain. Il n'y a rien, vous pourrez lire, c'est plus on s'est aperçu que la représentation, le sens, le fait que ça pouvait vouloir dire quelque chose, que ça correspondait, que les structures mathématiques pouvaient correspondre à telle ou telle chose. Je vais avoir à revenir là-dessus avec ces calculs. Vous voyez, 0,1 c'est pour faire de la logique. Et U et V c'est pour faire de la logique. Et les deux c'est la même chose. Vous remarquerez que si vous substituez à 0 dans cette table V, et si vous substituez à 1 U, vous avez les deux mêmes tables. Donc ici, vous pouvez écrire les mêmes choses que ce que j'ai écrit là, puisque quelqu'un a écrit ça. Ici, vous avez U plus V égale V, et U plus V égale V plus U. Bon. Bien, c'est vrai que 1 plus 0 est égal à 0 plus 1. Vous voyez, cette, regardez, 1 plus 0 d'après le plus. Alors ici, il faudrait mettre, voilà, l'erreur qu'a commis la personne qui m'a écrit ça, c'est qu'ici, il faut mettre 0, 1. Il faudrait mettre à chaque fois, moi, j'ai eu la flemme de faire ça. Mais j'ai tort, parce qu'il faut mettre en plus un indice derrière, à côté du, en dessous du signe plus qui est là. Le signe plus qui est là, il s'appelle VU. Vous voyez ? C'est le plus VU, c'est le plus entre V et U, qui est défini entre V et U. Alors que ici, c'est le plus 0,1. Donc il ne faut pas éluder ça. Et en tant que connecteur logique, attention, ça c'est la différence symétrique. C'est-à-dire que c'est la négation de l'identité. Hein, c'est une somme. Donc il faut mettre 0,1. Quand je ne le mets pas, quand je ne le mets pas, c'est pourquoi je ne le mets pas pour 0,1 dans mon texte que je vous ai envoyé. Pourquoi je vous oublie de le mettre là ? Parce que ça, ça continue à valoir même par rapport à tout ce qui est les autres, tout ce qui est autre construction logique. Bon. Et ce produit-là, c'est le T logique, 0,1. Bon. Mais ça, c'est tellement. À chaque fois que vous lisez plus, s'il n'y a rien indiqué, c'est que c'est ça, celui-là. À chaque fois que vous lisez multiplier ou vous lisez concaténation, par exemple ici, vous avez ici, je vais dire comme ici, c'est 1 multiplié par 0 égale 0 multiplié par 1, c'est cette ligne-là, hein, égale 0 multiplié par 0 égale 0. Regardez, 1 multiplié par 0, ça donne 0. 0 multiplié par 1, ça donne 0. 0 multiplié par 0, ça donne 0. Il y a trois cases où il y a du 0. Vous avez une case, la case numéro 1. Les cases, je vais les indexer par un chiffre. Voilà. On va les appeler 1, 2, 3, 4, les cases. D'accord ? 0, 1 par 0. Ça, c'est la case numéro 3. 1, 0 par 1, ça, c'est la case numéro 2. 0 par 0, c'est la case numéro 1. Et à chaque fois dans cette case, vous avez quoi ? 0. C'est les 3 0 qui sont là. Et donc, il y a une ligne spéciale qu'il faut ajouter pour le 1 multiplié par 1 pour la case numéro 4. J'ai 1 multiplié par 1 égale 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, j'ai même écrit 1 au carré égale 1. Bon. Et c'est le 1 qui est là. Donc, vous comprenez d'où viennent ces petites écritures, hein ? Ça vient de la case numéro 3. Ça, c'est la case numéro 2. Regardez, la case numéro 2, c'est V multiplié par U. C'est la case numéro 2. Vous voyez, V multiplié par U, le résultat, c'est V. Et V par V, c'est la case numéro 1. Et ça, U par U, c'est la case numéro 4. Voilà. Ça décrit. Ça, c'est écrit d'une manière diagrammatique, en termes de table. Ça, c'est écrit d'une manière syntaxique comme effectuation du produit. Et le produit est marqué avec un point, ou rien du tout. La concaténation suffit à marquer le produit. Mais on peut le rajouter. Alors ici aussi, regardez, dans notre biologique, ça va être le E avec V et U comme valeur constante. Et ça va être aussi la différence symétrique avec V et U comme constante. Ça va être un nœud logique, parce que ça, c'est la même chose que ça. Ça, c'est la logique classique. Et je voudrais aujourd'hui vous expliquer pourquoi on se contente de ça pour parler de la logique classique. C'est un condensé de la logique classique qui est énorme. Si vous vous contentez de ça, parce que ça rentre même dans un ordinateur, il y a un modèle électrique. Donc, vous pouvez déjà faire ça même avec vous pouvez construire des circuits électriques avec des instruments électriques en série ou en dérivation. Et bien donc, vous voyez que vous avez beau avoir un modèle électrique, vous ne faites pas de la logique si vous faites fonctionner seulement ça comme ça. Donc c'est quand même extraordinaire cette histoire de la condensation en mathématiques. D'accord, il n'y a pas de métaphore, mais il y a une condensation énorme. Ben, c'est normal. Les mathématiciens, c'est des gens qui, dont le boulot consiste à introduire des lettres quand ça devient trop chiant. Et même, il y a même des choses qui paraissent impossibles à écrire et qu'on arrive à écrire quand même grâce à une nouvelle langue. Ça s'appelle un nouveau. Regardez, vous avez les irrationnels. On a cru que c'était irrationnel les nombres qui n'étaient pas des fractions. Les Grecs, hein, ce qui n'était pas une fraction de deux nombres entiers, ils ont appelé ça irrationnel pour la diagonale du carré. Par exemple, racine de 2. Bon. Il faut attendre Galois au 19e siècle pour être vraiment à l'aise avec ça. Hein. C'est la résolution des équations. Les classiques, ils ont inventé aussi un autre truc qu'ils pensaient être impossible à écrire. C'était le nombre i, les imaginaires. Petit i. Hein, tel que i2 égale moins 1. Un carré qui est négatif. Il faut voir comment ils... Et c'est les Italiens qui ont inventé ça. Ils n'avaient pas de nom dont le carré était négatif, alors ils les ont appelés A, B, C, puis finalement ils se sont aperçus qu'il suffisait d'en introduire un seul pour avoir les autres. Alors c'est très amusant, hein, comment ça s'est fait. Ils ne sont pas tombés pile dessus, c'est comme en analyse, vous voyez. On ne tombe pas pile dessus, on tâtonne, on se trompe, on perd du temps. Il faut perdre beaucoup de temps, même plusieurs générations. Alors, c'est pour ça que la psychanalyse, on n'est pas pressé, hein. C'est mieux de prendre du temps, parce qu'avant que ça donne des résultats, vous allez voir. Pour l'instant, on est sûr qu'il y a Freud, c'est ce que je vais leur raconter demain. Il y a Freud qui a fait de la psychanalyse à Vienne au début du siècle, et Lacan à Paris dans la deuxième moitié. Freud, ça a duré 30 ans à Vienne, à peu près, un peu plus. Et Lacan, moins de 30 ans, c'est 27 ans au séminaire. Bon. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce que les autres, ils ont fait autour, vous savez, moi, pour ce que je vois, même moi-même, ce que je faisais à ce moment-là avec Lacan, j'y comprenais rien du tout. J'ai mis encore 4 ans après sa mort pour arriver à commencer à écrire, ce qui me permettait de me passer de lui.